C'est ce qu'on peut appeler une catastrophe, dont on se serait bien passé. En 15 ans, un tiers des oiseaux ont disparu. La raison, elle est simple.
CO2, mon amour.
Bon Dieu de bois, ça fait des années qu'on vous dit de pas donner du pain à manger aux oiseaux pendant vos promenades. Parce que quand il devient humide le pain, ça leur gonfle l'estomac, puis pof. Et après, les alouettes des champs et puis les linottes mélodieuses, ben, meurent.
Avec Denis Chessou.
Bon, je vous laisse. J'ai encore 200 litres de pesticides à épandre. Ben, parce que nous, faut qu'on vous nourrisse, par contre. Et puis, avec des produits de qualité.
Sur France Inter.
Bienvenue dans CO2 Mon Amour, ce magazine donc très très nature qui rapproche les hommes en nous rapprochant encore plus de la nature. Bonjour à tous et aujourd'hui à la technique nous travaillons avec U2 Aclopez et c'est Camille Blanès qui est toujours notre collaboratrice et Jérôme Boulet qui réalise l'émission. Alors donc, nouvelle occasion le dimanche à 13h20, mais vous ne couperez pas à une petite humeur pour débuter, ce sera ma concession à l'actualité. Actualité que je laisse en grande partie amicalement à Mathieu Vidard. Il prend le paquet cadeau environnemental avec le cambouis bio incorporé et constate comme nous que le globe ne tourne plus très rond, qu'à force de le défoncer pour de bon, de s'essuyer dessus comme un paillasson, eh bien les humains, si visionnaires, lui ont fait une grosse tête, une grosse terre au carré. Alors c'est pas la faute à Voltaire si elle est tombée par terre, le nez dans le ruisseau, non, c'est la faute au toujours plus, au toujours gros, au grand galop, à la démesure qui déshumanise. Donc c'est à Mathieu de nous dire si nous devons jeter nos déchets nucléaires dans la poubelle bleue ou la poubelle jaune, si nous devons laisser nos cartouches de fusil dans la nature ou bien les déposer à recycler chez Emmaüs, si un verre de glyphosate dilué dans du Ricard le soir avant de se coucher, c'est bon ou non pour la santé, et pourquoi les abeilles, enfin ce qu'il en reste, font de plus en plus de rêves partis en sortant d'un champ de néonicotinoïdes à minuit. Quand nous écoutons notre président à l'international, on a toujours l'impression d'être une nation à la pointe de l'écologie. Aussi, on se penchera quand même sur la cohérence entre un discours parfait, d'ailleurs, criant au feu, rappelant à juste titre que la forêt amazonienne transformée en boîte d'allumettes dépasse la problématique d'un seul pays, et la toujours importation massive de tourteaux de soja transgéniques venant du Brésil, d'Argentine, bref, de nos amis démocrates du Mercosur. On pourrait aussi, d'ailleurs, dénoncer la déforestation invisible, ça c'est très bien, et approuver totalement la si jolie raffinerie d'huile de palme de l'Amed. Alors vous me direz, tonneau des Danaïdes, l'environnement, bon il y a un peu de ça, car voyez-vous les enfants, il faut juste comprendre une chose, le capitalisme fou est le premier truc à sauver. Mais bon, on y vient, le capitalisme doit se réinventer vite fait, dixit notre président et d'autres personnes. Alors bon, d'accord, vous me direz, dans sa forme actuelle, il est aussi compatible avec l'écologie qu'un vegan face à une côte de bœuf sauce béarnaise. Mais quand même, soyons justes, ça commence à frémir. Alors c'est pas le gros bouillon du changement dans la casserole du CAC 40, mais les entreprises ont compris, les jeunes, ça y va, ça pousse, ça frémit. Bon, on ne risque pas encore de s'ébouillanter tel un François de Rugy au mois de juillet lors d'un malheureux accident domestique de restauration. Et puis en ce moment, il est de bon ton de railler Greta, de se moquer des enfants qui fouettent les politiques avec leurs nattes en s'appuyant sur des rapports scientifiques. On peut aussi passer son temps à calculer son empreinte carbone en bateau pendant que le nôtre prend l'eau. Et vous le savez, nous disait l'ami Goethe, on préfère toujours une injustice à un désordre. C'est aussi pour ça que nos pays sont si conservateurs. En matière d'environnement, pour plein d'autres choses aussi également. Alors les jeunes, foncez, car vous êtes et car nous sommes tous de magnifiques énergies pleines de sourires pour fabriquer de la résilience. Et puis n'oubliez pas que les rêves prennent toujours leur revanche. Alors vous l'avez compris, donc ça va être un CO2 mon amour résolument nature le dimanche, ça va être CO2 animaux comme la semaine prochaine avec le renard, territoire, ville, campagne, voilà, et donc de montrer aussi ce qui peut être encore protégé et on peut tous le faire. Une page nature et puis une nouvelle séquence tout de suite chaque semaine, ça va être le mot de l'environnement, une définition qui donne à réfléchir, un mot décortiqué par Cynthia Fleury ou Dominique Bourg, c'est le cas aujourd'hui, bonjour Dominique.
Bonjour Denis.
Alors Dominique Bourg, philosophe, professeur honoraire de l'Université de Lausanne. On remercie nos amis de RTS Lausanne donc, qui vous accueillent. Et alors, dans ce dictionnaire de l'environnement, on va débuter par...
Le mot environnement, Denis. C'est par lui que tout recommence, mais certainement pas commence. La Terre nous a précédés et nous survivra. Or, c'est précisément ce que ce mot est incapable de dire. L'environnement, c'est ce qui nous environne. C'est la Terre, avec nous et autour de nous, mais certainement pas sans nous.
Alors, Dominique, l'environnement, c'est très souvent, on va dire, proche du mot « milieu ».
Oui, Denis, mais le mot « milieu » dit les choses de façon plus modeste. Si la nature nous environne, alors nous sommes en effet le milieu. Mais en disant « milieu », il semble bien que l'on désigne ce qui nous environne. Ainsi, avec le mot « milieu », on s'efface un peu. On affiche moins de prétentions.
Alors le mot d'environnement, d'où il vient celui-là ?
Environnement est un mot ici du vieux français qui a fini par disparaître de la langue française pour y revenir en provenant de l'anglais, qu'il avait d'ailleurs depuis longtemps adopté. Il revient d'abord au début du XXe siècle avec les géographes, puis surtout dès la fin des années 60, mais pour exercer une fonction bien particulière. Parler alors d'environnement équivaut ipso facto à évoquer des problèmes d'environnement. Parler d'environnement, et qu'on me pardonne l'expression, c'est en fait parler d'emmerdement. S'il y a environnement, c'est parce qu'en quelque façon la nature nous emmerde, et ce, sous des angles différents.
Alors, en fait, c'est peut-être nous hein, quand même qui l'ennuyons, comme vous dites, cette nature.
Oui, Denis, mais elle nous le rend bien.
Ouais.
Elle ne cesse de se rappeler à nous, d'interpeller le ronron de nos activités économiques. Dans les années 70, les industriels ont de sérieux problèmes d'environnement. Ils doivent, par exemple, commencer à filtrer les fumées qui sortent de leurs cheminées, à ne plus se débarrasser de leurs déchets dans le milieu, etc. Et surtout, les réactions de la nature aux mauvais traitements qu'on lui inflige, ce qu'on appelle les pollutions, deviennent envahissantes. Qu'on ne s'étonne donc pas de ce que les écolos apparaissent toujours comme des emmerdeurs. Ils sont apparus avec nos difficultés et ne cessent de nous les rappeler.
Alors on sait très bien que bon, les choses s'accélèrent, mais nos problèmes ne sont quand même pas récents.
Ah non, c'est moi qu'on puisse dire. Ils n'adviennent pas dans les années 60. La conscience de l'impasse où nous conduisent nos relations destructrices à la nature remonte même grosso modo au milieu du 19e siècle. Mais ce n'est qu'après-guerre, avec ce qu'on appelle la grande accélération, à savoir l'explosion de nos activités comme de la démographie humaine, qu'ils vont finir par créer un vacarme de plus en plus assourdissant. On le devine, le mot environnement commence une histoire, mais il ne saurait nullement la terminer. Il est voué à s'effacer. Plus nos problèmes s'accumulent, et mieux nous comprenons qu'ils procèdent de ce que nous nous croyons le centre de toute chose, et non une espèce parmi d'autres, dépendant d'autres, et d'un milieu qu'on ne saurait détruire sans nous détruire, Denis.
Eh bien écoutez, un grand merci Dominique Bourg pour ce premier mot de l'environnement. Donc vous et Cynthia Fleury pour d'autres mots. Et puis, dans quelques instants, ça va être notre belle page nature. Je vais vous emmener au bord de la Loue, cette rivière en Franche-Comté.
Some new seduction. Show each other how. Give each other. each other new instructions on what makes us feel good now. I just wanna make you feel good now.
Très agréable ça hein, pour l'été, choisi par Thierry Butin. Mais non, Dupin. Anderson .Paak et Smokey Robinson, Make It Better. Et là aussi, j'espère que ça va être agréable pour vous. Prenez vos bottes, on va au bord de la Loue.
La Loue, c'est ses variations de niveau d'eau, c'est ses lumières, c'est ses odeurs. Vous sentez cette odeur-là ? Quand je me rapproche d'autres cours d'eau, que ce soit en Ardèche, que ce soit ailleurs, dans d'autres secteurs, Fontaine de Vaucluse ou autre, tous ces systèmes karstiques qui nous intéressent, je suis toujours fasciné par ces odeurs, ces éclairages, ces changements de lumière. Et Courbet a très bien peint d'ailleurs sur les changements de lumière dans les périodes orageuses. On a des jaunes, des verts qui apparaissent. Alors ce que l'on ne sait pas de Courbet, c'est que c'est effectivement un enfant de la Loue. Hein. Il va être chez son grand-père ici. Puisqu'il est originaire du plateau, mais il adore en fait cette vallée de la Loue. Il va venir s'y baigner. C'est un grand nageur. Les gens s'imaginent ce Courbet alcoolique, gras et autres. Non, c'est un sportif. C'est quelqu'un qui va venir et qui va faire de la barque au milieu de la rivière. C'est quelqu'un qui profite, hein, qui médite sur cette rivière. Et lorsqu'il a fini ses journées, il va aller en fait se promener dans les bois. Il connaît des endroits introuvables, des grottes fascinantes qui va même peindre.
Et d'ailleurs, si vous voulez voir des photos, elles sont signées Guy de Creuse et on les trouve sur le site de CO2 Mon Amour. Donc venez parce qu'on va prendre le frais direction la Franche-Comté. Une rivière pour la première page de notre herbier de paysages sonores tout neuf du dimanche que l'on remplira donc au fil des semaines un peu partout en France et aussi d'ailleurs parfois outre-Manche. La Loue donc, alors elle source, elle jaillit, sa naissance est à Ouen au fond d'une reculée. Elle chante sa jeunesse, elle va prendre son scalpel d'eau pour découper les gorges de Noailles et puis plus loin, bah, ce sera Ornans avec l'ombre massive de Courbet, né il y a deux siècles, en 1819. On retrouve Pascal Rélé. Ah bah dites donc, Pascal Rélé, on est à la fois accueilli par vous et par une chèvre. Bonjour Pascal.
Bonjour Denis. Ah,
bah oui, parce qu'en fait on a une chèvre qui a son petit jardin qui descend en fait jusqu'à la Loue. Et avec vous, nous allons parler quand même de cette rivière qui est devenue quand même gentiment mythique. Merci. Oui, non, alors là, on est en train d'essayer de bouffer votre manteau. C'est quand même moyen ça. Mais oui, tu vas parler. Et on s'est posé donc à Ornans, c'est-à-dire votre ville natale, Pascal Rélé. Donc vous êtes à la fois géologue, vous êtes hydrologue, vous connaissez le dessus, le dessous, parce que vous êtes aussi un spéléologue, vous adorez. Puis là, c'est vraiment un coin génial quand même, le Jura, parce que le karstique est quand même bien là. Et lorsque l'on regarde, avant de parler de la Loue, lorsque l'on regarde donc ce fameux Jura, faut remercier la mer qui était là, les glaciers, les Alpes.
Oui, en fait, on a effectivement des dépôts marins, 180 millions d'années, on va dire, pour faire simple, sur les magnifiques falaises que l'on voit. Et puis tout cela est tout plat, mais c'est fracturé lors de la formation des Alpes. Le Jura est donc le contre-coup tardif de la formation des Alpes.
Il y a 30 millions d'années, il y a les Alpes qui commencent à pousser.
Absolument. Ça pousse, et ça commence à se casser. Et ça va se poursuivre et se plisser. Et donc, c'est là qu'on retrouve ces fameux plis coffrés du Jura.
Lorsque l'on a des merveilleuses combes qui sont évidemment très très longues dans ce Jura, ça a été quoi ? C'était de l'érosion ?
Alors, les combes, c'est en fait de l'érosion différentielle. Il faut quand même imaginer que le Jura, c'est des alternances de calcaire et d'argile. Et ces argiles, lorsqu'elles vont être érodées, de la même manière que les calcaires, elles vont s'éroder plus rapidement. Elles vont générer en fait ces grands creux, ces grandes combes que l'on retrouve et qui vont suivre en fait la ligne géologique de ces fameuses argiles. Alors c'est toute la complexité du Jura. On a ces phénomènes karstiques, donc ces systèmes de grottes, si l'on peut dire, qui vont nous générer en fait ces éléments majeurs comme sont nos vallées. Donc la vallée de la Loue en est une. C'est une vallée d'origine karstique, une énorme résurgence que l'on trouve à quelques 10 km en amont.
Alors, elle sort quoi? Elle sort de la montagne? C'est une résurgence aussi?
Alors, c'est une résurgence, c'est assez magnifique, dans la mesure où, en fait, elle supplante Fontaine de Vaucluse. Vous imaginez, Fontaine de Vaucluse en crue, c'est 85 mètres cubes secondes. Et nous, notre Loup, en bas d'une falaise aussi typique, avec ses grands niveaux de calcaire de 150 mètres de haut, c'est 100 mètres cubes à la seconde, vous imaginez? 100 mètres cubes à la seconde. Ouais. Ça déferle, c'est assez bruyant. À tel point que même notre peintre local, Gustave Courbet, va la peindre, cette magnifique résurgence. Là, vous avez en fait toute la roche Le Grand avec Charmont, là où Courbet avait ses vignes. Ensuite, le château d'Ormand, château qui a été détruit sur Richelieu, évidemment. Et puis.
Par Richelieu, il détruisait beaucoup. Hein.
Et puis toute la partie roche du mont, c'est ce grand banc de calcaire en fait qui fait donc le support du tableau L'Enterrement Ornant. Puis après on finit par la roche Founès, là où en fait Courbet faisait ses escapades avec tous ses copains.
Donc quand les poissons, les truites lèvent les yeux, et ben, c'est ce qu'elles voient. Hop ! Je dis ça parce qu'on est descendu. Vraiment dans un, on va dire, on pourrait dire un petit ravin, et en fait non, c'est pas ça. On est sur un affluent en fait de la Loue pour rejoindre Marie-Marthe Fauvel. Bonjour Marie-Marthe.
Bonjour Denis.
Alors, vous êtes toujours conseillère patrimoine pour le bicentenaire de Courbet, c'est
oui,
ça?
Oui, tout à fait, voilà. Exactement.
Alors vous avez souhaité nous emmener dans ce lieu qui est évidemment étonnant, c'est plein de verdure, c'est plein de fraîcheur, c'est du karstique aussi. Et là nous sommes à un endroit où on aurait pu voir donc Courbet... nous suivre, ou bien il nous aurait devancé avec son chevalet?
Oui, ou alors on l'aurait croisé avec son chevalet, puisque c'est précisément à cet endroit-là que Courbet posait son chevalet pour peindre le défilé qui se trouve devant nous. Donc vraiment une formation rocheuse très belle, très intéressante, moussue et agrémentée d'arbres. Donc vraiment un lieu idyllique et qu'il devait très probablement fréquenter beaucoup quand il était jeune. Et qu'il a révélé au monde, en fait, en le peignant pratiquement une trentaine de fois au cours de sa carrière.
Pourquoi? Parce qu'il y avait une obsession? Parce qu'il y avait des clients? C'était quoi?
Les deux, je pense, en fait. C'est-à-dire que quand il commence à peindre cet endroit, je pense qu'il réalise que c'est un endroit magique parce que ça change de lumière au cours de la journée, ça change de lumière et d'aspect au cours des différentes saisons. Donc il l'a peint vraiment dans des conditions très différentes. Et que Courbet, depuis quelques années maintenant, on est en 55, il peint sur le motif, en pleine nature. Il finit ses tableaux en pleine nature, il les peint très très vite, avec beaucoup d'énergie. Il réalise sans doute qu'il peut développer finalement certaines facettes de son réalisme, du courant réaliste qu'il est en train de créer et dont il va bientôt se revendiquer.
Oui, parce que c'est quand même quelqu'un qui a tué à la fois le romantisme, qui a tué donc l'académisme. Hein, donc c'est ça l'idée.
Oui, c'était bien son objectif d'ailleurs.
Voilà, c'était ça, oui.
Bah, il était romantique au début hein, d'ailleurs. Hein.
Ouais.
Il était romantique, mais entre-temps, il y a eu les événements de 48 qui lui ont fait prendre conscience que finalement le romantisme n'était pas en mesure de rendre la réalité, la vérité, ce qu'il appelait la vérité. Il voulait faire de l'art vivant, Courbet. Donc il voulait rendre l'épaisseur des gens, des choses. Il voulait vraiment, comme il le dit d'ailleurs, hein, rendre les mœurs, les idées, les aspects de son époque en faisant de l'art vivant.
Je peins ce que je vois.
Exactement. Ouais. Je peins ce que je vois. Et à côté de ça, il disait aussi qu'il était l'élève de la nature.
Ouais.
Et de fait, c'est quand même quelqu'un qui a grandi à Ornans et à Flagey aussi. On l'oublie un peu souvent, mais la famille Courbet, finalement, partageait son temps entre l'hôtel Hébert, qui est aujourd'hui le musée Courbet, et puis la ferme de Flagey, qui se trouve à quelques kilomètres sur le plateau. Et son père était propriétaire terrien, c'était le plus grand propriétaire terrien de Flagey. Sa mère était d'une lignée de vignerons. Et finalement, Courbet a vécu au milieu de l'agriculture, de la vigne, des fruits, enfin des arbres fruitiers, évidemment aussi de l'élevage pastoral.
C'est pour ça que ça nous intéresse bien, parce que je l'ai appelé, il n'a pas répondu, il ne peut pas venir à l'émission, donc vous le remplacez merveilleusement bien. En fait, l'eau est le premier élément qu'il a sous les yeux quand il est tout petit, depuis les vitres d'Ornans, et puis donc cette rivière qui est la Loue.
Oui, le personnage principal de ces tableaux, c'est bien l'eau, hein, très clairement. La Loue, mais pas seulement, les sources. Et puis plus tard, donc la mer également, qu'il va peindre, notamment au Havre, mais aussi sur la côte fleurie. Et puis bien sûr en exil, où il peindra le lac Léman.
En Suisse.
Oui. En Suisse, tout à fait, à la Tour de Paix.
Alors c'est une enfance qui est faite de quoi? De fugues, de conquêtes champêtres?
Alors ça, on ne sait pas trop en fait, parce que le gaillard était plutôt réservé sur son enfance. Malgré tout, on peut déduire un certain nombre de choses en étant fils de propriétaire terrien, donc ça veut dire qu'il était assez libre finalement dans ses faits et gestes. Donc nécessairement, il pouvait parcourir la campagne un peu comme bon lui semblait. Et puis, il avait un rapport à la fois aux animaux, à la fois à une nature qu'il avait, dans laquelle il vivait, qui était très très fort. Et on le retrouve aussi, même dans ses toutes premières peintures, dans les petits tableautins qu'il a réalisés quand il avait une douzaine d'années, la nature est présente. Tous les personnages de Courbet sont présents dans la nature.
Ce qui est intéressant aussi, c'est les falaises. Et là, c'est quand même tout le travail de la perspective aussi, de ces falaises qui vont absolument surligner énormément de tableaux.
Oui, oui, tout à fait. Ben, j'ai envie de dire, c'est le deuxième personnage principal des tableaux de Courbet, en fait, oui. Les falaises. Hein. Les falaises, enfin les roches plus généralement, les roches, oui. Parce qu'il a peint des falaises ici, il a peint des falaises aussi en Normandie. Courbet peignait avec un couteau à palette, avec des brosses, avec le pouce, avec des chiffons, il raclait la toile, il avait un rapport très sensuel et très dur, en fait, à la peinture. Et en fait, il disait, mais comment fait-on pour peindre avec un pinceau des falaises, des roches qui ont été peintes elles-mêmes par la pluie, le vent, de rouille, etc. Donc voilà, il avait ça vraiment accroché aux entrailles et lui seul, finalement, savait véritablement peindre ces roches comme il l'a fait.
C'est-à-dire qu'il se sentait un peu le prolongement pictural du travail que la nature avait fait.
En tout cas, lui, il comprenait très très bien ce que c'était que cette nature. Il avait cette capacité, finalement, à rentrer... Finalement, j'ai envie de dire, dans la tête du paysage, comme on rentrerait dans la tête d'un personnage, en quelque sorte. Et d'ailleurs, il peignait des paysages très, avec des cadrages assez serrés, comme on peint des portraits assez serrés.
Et ce qui est assez formidable, c'est qu'on est sur un lieu qu'il aurait pu peindre aujourd'hui quasiment à l'identique.
Oui, alors ça, c'est une vraie problématique, d'ailleurs, parce que effectivement, le ravin du Pinoir n'a pas bougé. D'hier à aujourd'hui, c'est extrêmement touchant quand on regarde les tableaux de Courbet, on lit exactement les lignes de Courbet. Donc c'est touchant parce qu'on est dans une forme de communion avec le peintre quand on se trouve ici. On a le tableau devant soi, on a le paysage devant soi aussi, et là on constate qu'effectivement on voit la même chose que ce que Courbet a vu à l'époque. Malheureusement, c'est plus vrai de beaucoup de tableaux, forcément. Oui. L'urbanisation est passée par là.
Ah bah, si vous allez voir Monet, les champs de coquelicots du côté d'Argenteuil, maintenant vous avez une ZUP, vous avez un supermarché, vous avez tout ça. Donc.
Et il y a aussi l'enfrichement, c'est-à-dire qu'on parlait des falaises. Au pied des falaises, les coteaux ont été laissés aussi, on les a plus entretenus. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des falaises qui, finalement, au pied desquelles on trouve 10, 20, 30 mètres de buissons, d'arbres, etc. Alors qu'à l'époque, il n'y en avait pas. On voit très bien dans les tableaux de Courbet, ce n'est pas les bois qui prédominent, contrairement à aujourd'hui. La présence du bois et de la forêt est très importante. Dans les tableaux de Courbet, les paysages sont beaucoup plus ouverts. Et finalement, les arbres esselés sont assez
plus rares. De pastoralisme.
Il y avait... Oui, tout à fait. Voilà. Il y avait aussi de la petite culture. Voilà. Parce qu'elles étaient plus petites, donc plus nombreuses. Donc voilà, on n'avait pas du tout... C'est pas à vous que je vais apprendre qu'on n'avait pas du tout la même façon de cultiver la terre. Donc évidemment, les paysages ont considérablement changé. La question se pose de savoir est-ce qu'on a envie ou pas de retrouver les tableaux de Courbet et de retrouver les paysages de Courbet. Et ça, c'est une vraie question.
Laloux a un petit rapport avec le Pernod et l'absinthe.
Tout à fait, c'est pas, comment dirais-je, une histoire inventée par un fada du coin, pas du tout. On a compris que Laloux était une résurgence du Doubs après les incendies des usines Pernod à Pontarlier. Pernod qui a troublé le Doubs, bien entendu, mais également Laloux. Et c'est comme ça qu'on a su qu'il y avait des communications entre le Doubs et Laloux.
Voilà, et donc ça, on était en 1901, et il se trouve que c'est le fils du chimiste Berthelot qui se promenait comme ça aux sources de Laloux, et qui a trouvé une drôle d'odeur, une odeur d'absinthe, donc il a goûté, et puis là, il a compris, quoi. Il s'est dit, effectivement, Laloux est une résurgence du Doubs. Et les poissons naviguent droit, malgré tout.
Oui, ils ont peut-être pas dû apprécier l'anis dans Laloux, mais bon, ça remonte quand même à
plus de 90 ans.
Plusieurs décennies, oui. Donc il y a prescription.
Il nous fallait un pêcheur, François Maguigné, qui connaît beaucoup de rivières de France. C'est un des nombreux amants de Laloux. Sur De Mon Amour, on poursuit le voyage.
Nous un jour à Beau Rivage auront perdu beaucoup de temps, égarés dans des paysages qui ne nous allaient pas vraiment, auront goûté en solitaire aux saveurs de tant de saisons, sans l'avoir prévu, par temps clair, sur Beau Rivage nous échouerons. Avant convoité monde meilleur, à force de marche entravée, dans le vin déroulé des heures, avons révoqué la douceur sur des chemins de roses enfouies. Bientôt ne resterait d'ailleurs qu'ici. Nous échouerons à Beau Rivage, l'endroit parfait qui nous attend. Aurons perdu beaucoup de temps par d'autres lieux pris en otage. Aurons connu en solitaire les teintes de tant d'horizons, sans l'avoir prévu par temps clair. Sur Beau Rivage nous échouerons. Nous sommes heurtés à des barrages, à des croix tout juste dressées, à travers l'an des marécages. Sans chemin avons repoussé, essuyant des larmes d'orage, au fond de vallées dépeuplées. Nous échouerons à Beau Rivage, l'endroit parfait qui nous attend. La lande et marécage, avons perdu beaucoup de temps.
Sensibilité à l'environnement assez affirmée, c'était Dominica, Beau Rivage sur France Inter.
CO2 mon amour.
Et la rivière c'est de l'autre côté hein.
Avec Denis Chesson sur France Inter.
Oui, bon, on y retourne quand même. Alors, louer soit la loue, bah non. Et vous rajoutez un V entre le U et le E, et bah vous avez une des origines de son nom, la louve. Bah oui, alors on va repartir avec nos bottes, nos pinceaux culturaux, aquaticaux, environnementaux, fromageux. Bah oui, parce qu'il y a quand même des vaches bombéliardes qui doivent nous écouter aussi. Et nous marchons dans Ornans avec Pascal Rillet, donc hydrologue, géologue et courbettologue. Bon, une petite ruelle, mais qui donne sur la loue.
Oui, un trage comme on les appelle, qui permettait d'aller chercher de l'eau. Parce qu'en fait, à l'époque, 17e, 18e, il n'y avait pas l'eau courante. Donc en fait, les gens descendaient dans ces trages. Et pour certains endroits, donc on a même des anciens lavoirs.
Oui, donc l'accès à l'eau, c'était les fontaines, ou bien c'était directement la rivière.
Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va construire en fait la ville sur la rivière. On va venir dans le lit majeur.
Ah oui, on empiète là.
On empiète et lorsqu'il y a des inondations, ce n'est pas la rivière qui est dans la ville, c'est la ville qui est dans la rivière, donc fatalement, il ne faut pas pleurer.
Oui, et là, on a fait ça pourquoi? On économisait quelque chose en voulant faire venir les maisons sur les rivières?
Mais disons qu'on ne voulait pas empiéter sur la partie agricole. Hein. On avait une vigne qui était très développée, on avait des pratiques agricoles très importantes. Et puis parallèlement, on a un développement industriel qui va augmenter la hauteur des barrages. Mais bon, évidemment, lorsqu'on a une crue de 200-300 mètres cubes seconde, eh bien en fait, la rivière est dans la ville.
Oui, parce qu'on a quand même pas mal de petites maisons qui sont sur pilotis. Et ça date de quand, en fait? On les a construites
C'est tout le 18e, 19e qui va venir empiéter hein, sur la rivière. La partie haute de la ville d'Ornans n'a pas donc cette emprise dans le lit majeur. Ce qu'on appelle la ville haute, eh bien en fait, a toute une partie de jardins qui viennent jusqu'au bord de la Loue. Alors qu'en fait, on voit très bien hein, que même les jardins de Grandvel qui étaient là ont été repris pour en faire une place.
Alors, à quelques années d'écart quand même, hein, mais vous avez eu une enfance, je ne vais pas dire similaire avec Courbet, non, n'exagérons pas, Pascal Rillet, mais vous avez eu une enfance au bord de la Loue.
Ah oui, alors ce que l'on ne sait pas de Courbet, c'est que c'est effectivement un enfant de la Loue. Hein, donc, il va être chez son grand-père ici, puisqu'il est originaire du plateau, mais il adore en fait cette vallée de la Loue. Il va venir s'y baigner. C'est un grand nageur. Les gens s'imaginent ce Courbet alcoolique, gras et autres. Non, c'est un sportif. C'est quelqu'un qui va venir et qui va faire de la barque au milieu de la rivière. C'est quelqu'un qui profite, hein, qui médite sur cette rivière. Et c'est très, très méconnu. Et lorsqu'il a fini ses journées, il va aller en fait se promener dans les bois. Il connaît des endroits introuvables, des grottes fascinantes qu'il va même peindre.
Attention, on a une racine, là, voilà. Il y en a partout, des racines.
Hop.
Il y a eu un divorce avec Ornans. Il adorait cette ville. Il y revenait très souvent. chaque automne, il revenait au maximum. Et il a fallu quand même attendre à peu près la moitié du XXe siècle pour qu'il soit de nouveau honoré. Alors mondialement, il était connu, hein, il était déjà connu.
Oui, oui.
Mais en France, là aussi, il y a une espèce de résurgence. Quoi. C'est un peu comme de l'eau, mais il y a eu un moment de disgrâce. Quoi.
Mais le moment clé, ça a été l'enterrement en Ornans.
Voilà.
C'est incroyable de le dire encore aujourd'hui, mais enfin, avec l'épisode de l'enterrement en Ornans, Courbet a peint les gens de son pays. Il y a une cinquantaine de personnes du village qui ont défilé dans son atelier, qui ont été représentées sur ce tableau. Et quand le tableau a été présenté au salon et qu'il a fait scandale, il a fait scandale parce que, pour la première fois, on osait proposer un sujet populaire, une scène de genre, ce qu'on appelle une scène de genre du quotidien, en quelque sorte, un enterrement, en l'occurrence, dans des formats qui sont ceux de l'histoire. On contrevenait, en fait, au code de l'académisme et c'était absolument pas entendable. Et puis on a jugé aussi que ces personnages étaient particulièrement laids. Et c'est vrai que Courbet, on se demande s'il est de sa part un petit peu en Lydie. Il a fait des nez très rouges.
Il s'est fait assassiner par Théophile Gautier, entre autres.
Oui, tout à fait. Oui. Ah. Donc effectivement, le scandale est arrivé jusqu'à Ornans et quelque part, les Ornanais ont eu un peu de mal quand même à lui pardonner ça.
Oui.
Et puis bon, Courbet était quand même mécréant. Hein. Donc à Ornans, c'était aussi quelque chose qui était difficile à vivre. Ce qui est amusant, c'est que j'ai encore posé la question, mais il y a quelques temps. Effectivement, quelque part, les Ornanais semblent garder une petite dent contre Courbet. Et puis en même temps, c'est l'enfant de pays. Et en même temps, aujourd'hui, évidemment, il y a un regard qui est complètement différent sur son œuvre et sur l'impact qu'a eu son œuvre sur l'histoire de l'art.
On veut dire qu'on est ici dans son origine du monde pictural, quoi.
D'une certaine façon, oui. Ouais. Ouais. Tout part de là, tout part de ces paysages d'eau, de roches, cachés, intimes, bucoliques, champêtres, magiques.
Et après Marie-Marthe Fauvel, donc une autre femme, une collègue de France 3, France 3 Franche-Comté, Isabelle Brunarius, qui est amoureuse de la Loue, qui tient un blog, hein, vous le retrouverez sur le site de CO2 Mon Amour, avec donc cette rivière, on va dire, qui est travailleuse, avec ses moulins, avec ses forges, et aussi, alors, très indirectement, agricole. Et oui, si la Loue, les vaches et le fromage m'étaient comptés.
En 2009, il y a eu une énorme pollution. La rivière est tombée malade. Je traite l'actualité de cette Loue, de ces poissons qui meurent, de cette mobilisation pour sauver une rivière. Et je trouve que ça prend une dimension universelle. C'est-à-dire, je me dis, tiens, ça peut être intéressant d'étudier, de voir comment l'environnement et l'économie se côtoient et comment le curseur se place pour sauver une rivière. Est-ce que c'est l'environnement ou est-ce que c'est l'économie qui va remporter ?
Alors, elle a été polluée, pourquoi ?
Ben, c'est l'homme, tout simplement. Ouais. Alors tout le monde se rejette la faute et puis ils ont eu du mal à accepter. Mais il n'y a pas que l'agriculture, il y a les stations d'épuration qui ne fonctionnent pas, il y a l'agriculture qui, même si pour une appellation d'origine contrôlée, par rapport à tout ce qui se passe en France, quand même, il faut reconnaître que le comté a des pratiques qui ne sont pas celles de la Beauce,
d'accord. Qui tiennent un peu mieux la route, c'est moi
mais,
qui le dis.
Oui, mais quand même, il y a une...
Enfin, ils ont pollué, hein, donc...
Il y a une intensification qui fait que il faudrait penser... c'est ce qui se passe actuellement à la révision du cahier des charges pour encore plus améliorer les pratiques.
Oui.
Et puis, il y a nous, quand on fait dans notre jardin et qu'on ne sait pas doser et qu'on met du glyphosate pour enlever trois mauvaises herbes.
Depuis 2009, donc depuis cette pollution... Est-ce qu'on a pris conscience beaucoup plus et je veux dire, est-ce qu'on a surtout agi après pour que ça ne se reproduise pas ?
Il y a eu un préfet et un président de conseil départemental qui ont décidé de travailler ensemble, de faire des réunions. Alors, ça peut faire des grands raouts qui n'aboutissent à rien, mais il y avait cette idée de travailler ensemble. Honnêtement, aujourd'hui, on sent quand même un ralentissement. Il n'y a plus eu de conférence départementale. J'ai l'impression que c'est un peu trop tombé. Alors, est-ce que ça va repartir ? Un grand enjeu va être la rénovation du cahier des charges du comté. Les stations d'épuration, le conseil départemental du Doubs a voté des subventions effectivement
pour qu'elles soient mises aux normes,
pour qu'il y ait une amélioration. La population en prend conscience de l'intérêt des rivières. On le voit avec les poteaux, les marches au bord de l'eau qui sont organisées. On sait aussi que donc la rivière est un lieu à protéger.
Pour revenir juste sur l'agriculture, en fait, c'était quoi ? C'était un excès d'azote ? Ça a été l'excès de nitrate ? C'était quoi ?
Pour sauver la Loue, il faudrait que l'agriculture fasse ce que le milieu lui donne. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'agriculteur il puisse faire son revenu, et un revenu honnête et suffisant, en fonction de ce que ses terrains lui donnent. Ça veut dire qu'il faut qu'il fasse sa révolution en transition écologique, comme c'est ce qui les élèves en BTS agricole apprennent, c'est-à-dire il faut qu'ils mettent en pratique l'agroécologie. Il faut qu'ils calculent, non pas en fonction de ce qu'il veut produire de lait, mais en fonction de ce que lui donne son potentiel, de ce qu'il a.
Ce qui change tout. Hein.
Mais ça ne veut pas dire qu'il gagnera moins bien sa vie. Et donc, on leur apprend, on leur dit, gérer un territoire selon les principes agroécologiques, c'est pas faire de la réparation, de colmatage d'une rivière qui est polluée. C'est en amont, faire en sorte que le terrain, il ait une forme de résilience par rapport au changement climatique, que, en fait, les vaches, elles aient un foin qui soit nourrissant, mais sans forcément mettre énormément d'engrais, choisir, étudier les parcelles. Enfin, d'abord, c'est à la décharge des agriculteurs, c'est très, très, très compliqué. Donc, ça ne peut pas se passer du jour au lendemain. Mais les jeunes qui vont arriver, ils vont avoir appris, ils vont savoir, et ça va changer.
Alors Isabelle Brunierius donc nous le dit, hein, ce cahier des charges, alors, il n'est pas encore validé hein, par l'INAO ni par l'Union européenne. Aujourd'hui, la production de comté, alors c'est une très belle filière hein, par ailleurs, ne se calque pas, on va dire, aux exigences de la rivière. On l'a compris, on n'est pas dans cette logique inversée, mais il y a quand même une convergence des esprits et une amélioration des pratiques qui est en route. Il va falloir du temps parce que quand on vend quand même le comté, on vend une image de biodiversité, de vaches au pâturage, et pas une image de lisier évidemment qui est donc l'ennemi des rivières. Bon voilà, donc on est en train d'évoluer. Et dernier mot, les derniers. Dernier mot, bah ce sont des mots d'eau, et on les doit à François Magdigné, à Moutier-Hautepierre.
Ah, c'est une rivière qui, comme beaucoup de rivières de résurgence, peut-être en raison de la, je dirais, de la transparence de ses eaux. Hein, on voit très bien là, les herbiers,
très clair,
le trèfle, hein, le galet au fond. Donc on voit les poissons évoluer. D'ailleurs, on a quelques ombres là-devant. Hein, Denis, il y a quelques trois ou quatre très très beaux ombres devant nous. Et on voit donc très très bien le poisson, mais je dirais ce sont des rivières, surtout à la sortie des gorges de Noailles, qui sont toujours fraîches, parce que la température de l'eau est fraîche, même en plein été, et qui sont des rivières intimistes, qui coulent dans une vallée, vous voyez les sapins là, qui montent à l'assaut du plateau karstique, qui ménagent au sein de cette vallée toujours de la fraîcheur, de la verdure. On a toujours des gazouillis de courant, on l'entend très bien là. Donc on se régénère toujours au contact de ce rivière-là. C'est des émotions toujours difficiles à exprimer, mais qu'on ressent, pêcheur, tout à fait au fond de soi.
Voilà, belle sensibilité. Alors n'hésitez pas donc à visiter donc ce musée Courbet donc qui est à Ornans. C'était notre première balade pour notre habillé de paysage. Donc merci à cette loup et à ses intervenants.
CO2 mon amour.
Tu pêches avec moi ?
Sur France Inter.
Les mouches baniennes, numéro 6. Je vous remercie, monsieur l'expert de la poésie et des truites.
Denis Chessou.
Et le mot de la fin revient quand même aussi à un comédien, Jacques Bonnafé, qui chaque semaine nous lira une citation qui nous fera réfléchir.
L'utopie, ça réduit à la cuisson. C'est pourquoi il en faut énormément au départ. GB.